Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Eh bien, nous allons commencer. Et comme je le fais tous les ans, je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui à la fois une brève récapitulation de ce que j'ai exposé dans les cours précédents et une présentation du chantier de l'année. En effet, le cours de cette année continue le chantier que j'avais ouvert en 2005-2006 et que j'ai poursuivi dans le cours de l'année précédente sur la question de la figuration que j'envisage dans une perspective à la fois anthropologique et comparative. Je rappelle, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs fidèles, mais il y a aussi quelques nouveaux, je rappelle donc que j'entends par figuration cette activité universelle et spécifiquement humaine de production, d'aménagement, d'ornementation ou de mise en situation d'un objet ou d'un ensemble d'objets inorganiques ou vivants, y compris d'ailleurs le corps de l'homme, en vue d'en faire une image fonctionnant comme un signe à la fois iconique et indiciel, les deux termes faisant référence bien sûr à la sémiologie de Peirce. Et si la ressemblance est la modalité iconique que l'histoire de l'art européen nous a rendue la plus familière, elle est loin d'être aussi commune ailleurs. Il arrive souvent que l'icône figure un objet que personne n'a jamais vu, une divinité le plus souvent, à qui sont imputées des qualités dont la reconnaissance dans une image est tributaire de l'identification de celle-ci au prototype qu'elle figure. Une image n'est donc pas la simple imitation d'un objet, car cet objet peut n'avoir pas de forme qui lui soit propre et peut ne s'incorporer de façon visible que dans une image, laquelle peut alors constituer soit la forme stable de son incorporation, et le cas le plus courant, c'est évidemment l'allégorie, soit être elle-même informe et ne représenter alors qu'un prototype au sens d'une délégation simplement ou d'une traduction, comme on dit qu'un mandataire représente un mandant. Pour qu'il y ait figuration, et non pas simplement mimésis, il faut en outre que les images, je l'ai dit, opèrent comme des signes indiciels, c'est-à-dire des signes qui soient interprétables, non plus seulement en fonction d'une similitude de qualité avec un prototype, mais aussi en vertu de la connexion directe que ces images évoquent entre l'objet dénoté et les sens ou la mémoire de la personne pour laquelle elles servent de signe. Les images deviennent alors, par contiguïté, avec les désirs et avec les aspirations de ceux qui les ont fabriqués, de ceux qui les ont utilisés, comme dotées elles-mêmes d'une agence. C'est le terme que j'emploie en général pour traduire l'anglais agency, auquel certains parlent d'agentivité. Je préfère un terme plus simple, à vrai dire. Elles sont elles-mêmes donc, paraissent elles-mêmes dotées d'une agence, au sens où elles donnent l'impression d'être pourvues d'une autonomie et d'une capacité à agir, dans lesquelles prend sa source, évidemment, la fascination qu'elles exercent sur nous. Alors, Alfred Gell, dont on a traduit fort heureusement en français l'année dernière le grand livre Art and Agency, sous le titre, je crois, L'art et ses agents, a donné un certain retentissement à cette conception de l'image comme un agent intentionnel, notamment parce qu'il a eu le mérite d'en explorer méthodiquement les conséquences et aussi parce qu'il a eu le mérite d'en préciser les conditions cognitives de fonctionnement. Mais l'idée en elle-même n'est pas nouvelle. On en trouve des traces nettement formulées dès les premières décennies du XXe siècle et déclinées ensuite de diverses manières notamment par les historiens de l'art. Je pense ici à Bax Sandal, je pense ici à David Friedberg ou à W.G.T. Mitchell. Ainsi entendu, l'agence, dont on crédite les images, est une notion purement relationnelle. Elle est donc dépourvue de contenu ontologique intrinsèque. Tout ce qui est en position d'agent à l'égard d'un patient, donc une image vis-à-vis d'un spectateur, exerce une agence déléguée parce que il constitue une interface matérielle entre des intentionnalités réelles ou supposées, que celles-ci soient imputées au créateur humain de l'image, de l'objet, ou aux entités que cette image figure, ou qui sont réputées en être la source. Mais le fait que l'image, en tant que signe indiciel, se dérobe à toute caractérisation ontologique, à toute définition d'une essence, pourrait-on dire. Autrement dit, le fait que l'image ne puisse pas être distinguée d'autres sortes d'artefacts par des propriétés symboliques qui lui appartiendraient en propre, ne signifie pas, pour autant, qu'elle ne puisse pas rendre visible des propriétés ontologiques plus générales. Et l'hypothèse qui sert donc de fil directeur au cours, et que j'ai commencé à explorer dans les années précédentes, est précisément que certaines images, pas toutes, mais certaines, révèlent à la fois dans leur contenu et dans une moindre mesure dans leur organisation formelle, des systèmes de qualité prêtés aux objets du monde ou décelés dans les objets du monde, autrement dit, des ontologies. Et c'est par ce mécanisme de dévoilement et d'incorporation de l'armature invisible du réel que, me semble-t-il, se caractérise au premier chef la figuration. Alors, les images qui relèvent de la figuration ontologique, et encore une fois, toutes ne sont pas dans ce cas, j'en ai passé en revue quelques-unes au cours de cours précédents qui ne relèvent pas du tout d'une figuration ontologique, notamment les pictographies, les caricatures, les blasons, etc. Les images qui relèvent de la figuration ontologique ont ceci de particulier que l'on parvient, en général, à repérer en elles un jeu assez subtil, sur les rapports entre ce que j'ai appelé la physicalité et l'intériorité des objets représentés, rapports qui se déclinent en un nombre restreint, limité, de formules correspondant à autant de façons de percevoir des continuités et des discontinuités, des contrastes et des ressemblances entre les existants. J'ai en effet montré, dans des travaux antérieurs, que les diverses manières d'organiser l'expérience individuelle et collective du monde, ces diverses manières peuvent être ramenées à un nombre réduit de ce que j'ai appelé des modes d'identification qui correspondent aux différentes manières de distribuer des qualités aux existants, c'est-à-dire de les doter ou non de certaines aptitudes ou de certaines dispositions, les rendant capables de tel ou tel type d'action. Cette identification qui est fondée sur l'aptitude ou les diverses possibilités d'imputer à un aliud indéterminé une physicalité et une intériorité analogue ou dissemblable à celle dont tout humain fait l'expérience, cette identification peut donc se décliner en quatre formules ontologiques. Je les rappelle, soit la plupart des existants sont réputés avoir une intériorité semblable, tout en se distinguant par leur corps, c'est ce que j'ai appelé l'animisme, en reprenant une formule fort ancienne, enfin une terminologie fort ancienne, soit les humains sont seuls à posséder le privilège de l'intériorité, tout en se rattachant au continuum des non-humains par leurs caractéristiques physiques, et c'est le naturalisme, soit certains humains et certains non-humains partagent à l'intérieur d'un groupe, d'une classe, j'ai nommé, les mêmes propriétés physiques et morales issues d'un prototype, tout en se distinguant en bloc d'autres classes, d'autres groupes du même type, et c'est ce que j'ai appelé le totémisme, reprenant là encore un terme consacré dans la littérature anthropologique, soit tous les éléments du monde se différencient les uns des autres ontologiquement, raison pour laquelle il convient de trouver entre eux des connexions, des correspondances stables, et c'est ce que j'ai appelé l'analogisme, du fait que la pensée analogique est le moyen le plus couramment employé pour définir et repérer ces correspondances. J'avais consacré le cours de l'année 2005-2006 à explorer les propriétés figuratives de l'animisme, en montrant notamment comment l'animisme parvient à rendre visible l'intériorité des diverses sortes d'existants et la façon dont cette intériorité habite des corps différents et néanmoins identifiable sans équivoque, par des indices d'espèces. Le cours de l'année 2008-2009 a poursuivi l'étude des modes de figuration ontologique en examinant plus particulièrement la mise en image du totémisme et celle du naturalisme naissant. Et il me semble qu'un très bref rappel des caractéristiques figuratives de l'animisme et du totémisme peut être utile, notamment pour les nouveaux auditeurs, avant de revenir aux images du naturalisme auxquelles je vais consacrer un bon nombre de leçons cette année. Donc quelques mots sur la figuration d'abord animique. Je rappelle donc à nouveau que l'animisme se définit par la généralisation au non-humain d'une intériorité de type humain, combinée à la perception de la discontinuité des physicalités, c'est-à-dire des corps et des mondes auxquels ces corps peuvent donner accès. Donc figurer une ontologie de ce type consiste tout simplement, si je puis dire, à rendre visible l'intériorité des différentes sortes d'existants et à montrer comment cette intériorité s'incorpore dans des corps aux apparences diverses, mais qui sont néanmoins identifiables facilement, si je puis dire, par des indices d'espèces. J'ajoute que dans la mesure où la métamorphose joue un rôle très important dans l'animisme, on doit aussi s'attendre à ce que la métamorphose reçoive une expression figurative sous la forme d'une commutation, d'un basculement de perspective ou de point de vue qui permet de voir tantôt un existant sous un certain angle, c'est-à-dire sous l'aspect de son intériorité, tantôt sous un autre angle, c'est-à-dire essentiellement sous l'aspect de sa corporalité d'espèce. Alors, il y a un dispositif qui montre ça fort bien, ce qui est le masque à transformation de la côte nord-ouest du Pacifique, qui est le moyen le plus efficace et le plus spectaculaire pour réaliser cette commutation, puisque c'est une tête assez souvent d'un animal ou d'un esprit animal qui révèle par des volets mobiles un visage de type humain, qui est donc le paradigme de l'intériorité, puisque c'est dans le visage humain que l'animisme a, en général, assez souvent, en tout cas le plus souvent, vu l'indice par excellence de l'intériorité. Mais il existe aussi bien d'autres dispositifs du même ordre, toujours dans le registre des masques, qui joue par exemple sur une simple dissymétrie dans l'axe vertical ou dans l'axe horizontal. Ainsi en est-il par exemple de certains masques des Yupik ou des Yupit, puisque c'est le nom qu'on leur donne au pluriel d'Alaska, ou quand je dis des masques, je dis d'un masque Mabetisek, parce que c'est le seul que j'ai trouvé et qui est exposé à l'exposition du musée du Quai Branly en ce moment, La fabrique des images. Et dans ces masques, pour faire apparaître la dimension animale ou non pas humaine, mais d'intériorité de type humain de l'être figuré, on joue sur le changement de point de vue qu'un simple déplacement permet de mettre en œuvre. soit latérale, soit verticale, et sous un angle, c'est l'intériorité de type humain qui domine, sous un autre, c'est la face animale. Ailleurs, dans l'archipel animiste, en Amazonie particulièrement, on ne s'attache pas à figurer les corps d'une manière réaliste, mais on s'attache plutôt à transformer les corps humains eux-mêmes en images, par le prélèvement d'attributs et de motifs sur les animaux. Et donc arborer des plumes, des crocs, des griffes, des élytres, des cerfs ou des écailles ne relève pas ici de la simple ornementation ou d'un marquage de statut des étapes du cycle de vie, par exemple, ou d'un statut ou même d'une différenciation entre groupes ethniques voisins. Cette disposition permet aussi aux humains de capter à leur profit les dispositions que les espèces animales possèdent grâce aux physiques particuliers dont elles disposent. Et par ce biais, en empruntant des morceaux aux corps animaux et en les recomposant sous forme de parures, les humains cherchent à retrouver les aptitudes qu'ils ont eux-mêmes perdues lorsque les personnes animales et les personnes humaines ont été séparées. En effet, les mythes racontent dans toute cette région que tous les êtres vivants avaient à l'origine un corps polyvalent, conçu un peu par analogie avec celui des humains, mais qui combinait d'une certaine façon l'ensemble des dispositions aujourd'hui réparties entre les différentes espèces. Et les peintures corporelles et les masques costumes qui sont arborés par les Indiens d'Amazonie sont aussi une autre façon d'emprunter l'image des non-humains. Il s'agit à chaque fois de récupérer des choses que l'on a perdues ou de se faire affilier dans des espèces qui sont différentes de la vôtre. En effet, les animaux et les esprits sont censés se voir eux-mêmes comme des humains et ne peuvent donc plus alors se distinguer les uns des autres qu'au moyen des motifs particuliers dont ils sont ornés ou des parures dont ils sont ornés. Donc en se peignant le corps avec ces motifs ou en les reproduisant sur des masques, les Indiens cherchent à se faire reconnaître comme des congénères par les esprits et par les animaux dont ils veulent s'assurer le concours principalement dans le cadre des cures chamaniques. Autrement dit, ces peintures corporelles et ces masques servent ainsi de tenue de camouflage ontologique pour se faire passer pour des membres d'autres espèces. Tournons-nous à présent, je vais très rapidement évidemment, parce que tout ça c'est des choses que j'ai déjà exposées, tournons-nous à présent vers les grands traits de la figuration totémique. Je rappelle que l'identification totémique, donc, elle est issue, ou elle est fondée plutôt, sur le partage au sein d'une classe nommée d'existants, regroupant des humains et diverses sortes de non-humains, d'un ensemble de qualités physiques et morales très précisément définies que l'entité éponyme est réputée incarner au mieux. Dans l'Australie des aborigènes, qui est prise ici comme exemple car l'ontologie totémique s'y exprime de façon particulièrement nette, le noyau de qualités caractérisant la classe totémique est issu d'un prototype primordial que, dans la littérature ethnographique, on appelle en général l'être du rêve. En effet, des récits étiologiques racontent que, lors de la jeunesse du monde, l'aurore du monde, pour employer l'expression de Radcliffe Brown, au temps du rêve, des êtres hybrides sortirent de terre en des sites précis, connurent maintes aventures au cours de toutes sortes de pérégrinations à la surface de la Terre, puis s'enfoncèrent dans les entrailles de la Terre. Et les actions qu'ils accomplirent eurent pour résultat de façonner l'environnement physique, soit parce qu'ils se métamorphosèrent en un élément du relief, soit parce qu'une trace de leur présence demeura dans le paysage, de sorte que les traits caractéristiques du milieu portent jusqu'à présent le témoignage de ces péripéties. Et avant de disparaître, ces êtres prodigieux laissèrent aussi des dépôts de semences d'individuation que dans la littérature ethnographique on appelle des âmes-enfants. Et ces semences d'individuation, elles s'incorporent depuis lors dans les humains et dans les non-humains qui composent la classe totémique et qui, issus d'un être du rêve, et qui portent son nom. De ce fait, les qualités héritées du prototype s'actualisent à chaque génération dans des humains, dans des animaux, dans des plantes, lesquelles constituent, en dépit de leurs apparences dissemblables, autant de manifestations identiques du groupe de qualités fondamentales au moyen duquel s'affirme leur identité commune. Et donc figurer une telle ontologie implique de donner à voir que les membres humains et non humains d'une classe totémique partagent une même identité, essentielle, pourrait-on dire, et matérielle, pour reprendre des concepts qui appartiennent à notre tradition philosophique. Identité essentielle, car ils ont en commun d'être issus d'un même prototype originel, c'est-à-dire d'un même stock de principes d'individuation, de semences d'individuation localisées dans un site, et identité physique, car ils sont faits de la même substance, sont organisés selon une structure identique et possèdent de ce fait le même genre de tempérament et le même genre de disposition à agir. Alors, pour rendre visible la permanence dans le temps des prototypes totémiques, le caractère immuable de leurs traits structuraux et les effets de leurs actes créateurs sur des particularités du paysage, les aborigènes ont employé trois stratégies figuratives qui sont autant de transformations les unes des autres. La plus littérale combine la figuration de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante. La figuration des sites qui sont à la fois le cadre et la résultante de cette action. Et la figuration d'emblèmes associés au groupe totémique issu de ces événements. Donc cette représentation d'un ordre à la fois spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement est bien illustrée par la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la terre d'Arnhem qui peignent sur des écorces des séquences de récits relatant les aventures des êtres totémiques au temps du rêve. Les êtres du rêve sont généralement figurés sous une forme animale ou sous une forme végétale, tandis que les motifs peints sur les écorces représentent les éléments du site géographique où ces événements se sont déroulés. Et ces images, retraçant le trajet suivis par les êtres totémiques au cours de leur péripétie, figurent à la fois un événement fondateur, ses protagonistes, la genèse d'un site précis, une carte schématisant ce lieu, ainsi qu'une sorte de blason. Et l'ensemble, évidemment, témoigne du lien profond entre un groupe totémique, un site géographique et une genèse ontologique. Donc les écorces peintes des Yolngu sont ainsi l'expression visible de l'ordre totémique en train de se faire, en train de s'actualiser. Alors deux transformations sont possibles à partir de ce schème figuratif de l'ordre totémique en cours d'avènement. Soit figurer cet ordre au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré sans montrer le résultat de leurs actions, soit au contraire, ne figurer que ce résultat en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux peintures dites en rayon X des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem, notamment les Kunwishku, lesquels ne représentent pas toutes les circonstances de l'événement donnant naissance à l'ordre totémique, mais figurent seulement l'être du rêve à la source de cet ordre, en supprimant tout contexte et toute action. Donc l'être totémique est représenté sur un fond uni, il est parfaitement immobile, tandis que son squelette et ses organes sont minutieusement dépeints. Et son anatomie interne est en effet le modèle de l'ordre social et de l'ordre cosmique. Et ces images manifestent que l'organisation totémique intemporelle s'est en quelque sorte déployée à partir du corps même de l'être du rêve. La deuxième formule, elle correspond aux peintures des aborigènes du désert central australien. Ces peintures prolongent une riche tradition qui s'exprimait autrefois sur des supports plus éphémères, tels que les dessins sur le sable, les peintures sur le corps et aussi les dessins sur les objets rituels comme les churinga. Et ces peintures pointillistes figurent les itinéraires suivis par les êtres totémiques au temps du rêve. Et contrairement aux peintures des peuples de la terre d'Arnhem, les êtres du rêve n'apparaissent cependant jamais sur les images. Ces images représentent seulement les empreintes que ces êtres du rêve ont laissées dans le paysage au cours de leur trajet. Elles montrent ainsi un fond sans figure, par opposition aux images de la terre d'Arnhem qui montrent une figure sans fond. Et à travers ces peintures, les peuples du désert central rendent visible l'organisation totémique intemporelle telle qu'elle s'est manifestée dans un lieu, dans un site précis. Revenons maintenant, après ce très bref rappel, à ce que j'ai appelé la figuration naturaliste, que j'ai commencé à examiner dans le cours de l'année précédente, et je voudrais rappeler certains des points que j'avais établis au cours des cours que j'avais consacrés. Le naturalisme, au sens où je l'entends, commence à émerger, il est perceptible dans les textes, en Europe, à partir du XVIIe siècle, chez Bacon, chez Galilée, chez Descartes, mais il ne va prendre une forme achevée que deux siècles plus tard, avec la notion de culture et avec l'avènement des sciences qui en traitent. Durant toute cette période, une perception des qualités du monde voit peu à peu le jour, et en tout cas se manifeste peu à peu de manière explicite, qui s'appuie sur deux inférences complémentaires. D'une part, les humains se distinguent nettement du reste des existants du fait des capacités cognitives que leur intériorité singulière leur confère, mais en même temps, ils sont semblables au reste des existants par leur détermination physique. Donc la formule du naturalisme, elle est inverse de celle de l'animisme, c'est par leur esprit et non par leur corps que les humains se distinguent des non-humains, notamment par cette intelligence réflexive de soi que définit le cogito cartésien, et c'est aussi par leur esprit, hypostasié en une sorte d'âme collective, qu'ils se distinguent les uns des autres dans des ensembles unifiés par le partage d'une langue, d'une culture, d'un système d'usage. Quant au corps, eh bien, ils sont tous soumis aux décrets de la nature, ils relèvent de l'universel, à l'instar du temps, de l'espace et de la substance, de sorte qu'ils ne peuvent servir à singulariser les humains comme une classe d'êtres à part. Il faut toutefois prendre garde que la figuration n'est pas la simple transcription dans des images d'une ontologie qui se serait développée avant elle et à leur écart en faisant appel à des ressources purement discursives. Certaines images sont des images purement narratives, essentiellement celles de la Renaissance italienne et celles qui ont été produites par la suite. Mais d'autres images ne font pas nécessairement référence à des discours, et c'est tout particulièrement ces images qui m'intéressent. Car en fait, c'est dans tous les domaines de la vie que les modes d'identification opèrent leur travail de discrimination entre les existants au moyen de ce qu'on pourrait appeler une schématisation cognitive de l'expérience. Et ces schèmes, ils sont repérables eh bien, dans les énoncés, bien sûr, et dans toutes les formes discursives que l'on utilise habituellement pour les étudier, mais aussi dans les modes d'action sur la matière, dans les formes de comportement, dans les types de cultures visuelles qui sont rendues manifestes par l'usage des images, et dans les attitudes vis-à-vis des non-humains, et bien sûr, en in fine, dans la façon de produire des images. Or, si la naissance du naturalisme européen peut être fixée, comme je l'ai dit, en tout cas conventionnellement, au XVIIe siècle, sous son aspect normatif, sous son aspect propositionnel, avec l'intense production épistémologique qui accompagne le surgissement des sciences modernes, certaines d'entre elles en tout cas, il n'en a pas nécessairement été de même dans les autres champs, notamment dans le champ des images. Et tout indique au contraire que le monde nouveau a commencé à devenir visible dans des représentations iconiques avant d'être systématisé dans le discours. En effet, si les deux traits qu'une figuration d'ontologie naturaliste doit au premier chef objectiver, ce sont l'intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses, alors il ne fait guère de doute que ces deux objectifs ont reçu un début de réalisation dans la peinture du nord de l'Europe dès le XVe siècle, et même probablement plus tôt, dès la deuxième moitié du XIVe siècle. Enfin, je me suis attaché surtout au XVe siècle l'année dernière, c'est-à-dire en fait bien avant que les bouleversements scientifiques et les théories philosophiques de ce qu'on a appelé l'âge classique ne leur donnent la forme argumentée qui signale d'ordinaire l'accouchement de la période moderne pour les historiens des idées. Ce qui caractérise au fond la nouvelle façon de peindre qui naît en Bourgogne et en Flandre à cette époque, au tournant du XIVe et du XVe siècle, c'est l'irruption d'une part de la figuration d'individus, d'abord dans les enluminures où sont représentés des personnages très réalistes, dépeints dans un cadre réaliste en train d'effectuer des tâches réalistes, puis dans des tableaux que caractérise la continuité des espaces représentés, la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus et l'individuation des sujets humains dotés chacun d'une physionomie qui lui est propre. Et cette révolution dans l'art de peindre qui se produit alors en Europe installe durablement, dans cette région du monde en tout cas, une façon de figurer qui met l'accent sur l'identité individuelle de l'icône, du prototype, de l'artiste et du destinataire, pour prendre les quatre catégories qu'Alfred Gell avait distinguées dans son analyse du réseau de l'art. Une manière de figurer qui se traduit aussi par une virtuosité croissante dans deux genres au fond inédits, la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité comme indice de la singularité des personnes, et des personnes humaines, bien sûr, il faut toujours préciser lorsqu'on a l'animisme en toile de fond, et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être décrit, observé et dépeint pour lui-même. Alors la singularité des individus et des situations, elle se donne à voir par exemple dans les enluminures du XVe siècle, par la façon dont des personnages réels sont portraiturés, afin que l'on puisse non seulement les identifier, mais aussi prendre un aperçu en voyant leur visage, des traits essentiels de leur personnalité. Et une telle manière de dépeindre l'individu tranche assez nettement sur les portraits de l'Antiquité et sur les icônes de l'Orient chrétien, puisque finalement, en Grèce et à Rome, le portrait peint ou le portrait sculpté représente soit un défunt dont on souhaite conserver le souvenir, soit un personnage puissant ou ayant atteint une certaine notoriété, que l'on glorifie par ce moyen. Et tout en n'étant pas, semble-t-il, trop infidèle au modèle, ces images tendent néanmoins à figurer plutôt des catégories de personnages que des individualités à proprement parler. Elles visent, en somme, la singularisation d'une personne au sein d'un type par l'ajout d'attributs, non sa mise en scène dans un milieu de vie familier qui la prolonge, cette personne, et qui lui donne une partie de son particularisme. Quant à l'icône, c'est pour reprendre la formule de Hans Belting, je le cite, une image peinte antique qui a survécu à la société antique. Je réfère ici à son ouvrage « Images et cultes ». Mais une image qui a perdu chemin faisant toute véritable aspiration au mimétisme, surtout par exemple dans les icônes les plus classiques, c'est-à-dire dans les portraits de saints qui sont réduits à des assemblages de traits conventionnels. Donc la peinture devient une technique de description typologique, standardisée, complémentaire de ces techniques verbales de description littéraire héritées de la rhétorique antique, que sont l'ekphrasis et l'eikonismos. Bref, dans le portrait iconique, comme le montre fort bien Gilbert Dagron dans le livre qu'il a consacré à ce thème, c'est moins, au fond, la ressemblance qui compte que la vérité par conformité à un modèle idéal. Et la différence est de taille avec les représentations, par exemple, de donateurs et les images de dévotion que réalisent les maîtres de l'enluminure et les peintres de fresques dans la deuxième moitié du XIVe siècle. J'en ai donné l'année dernière plusieurs illustrations, et la différence est évidemment encore plus grande avec les portraits qu'une poignée de pionniers, au premier chef Robert Campin, Jan van Eyck et Roger van der Weyden, certains aussi à l'aise dans la peinture sur panneau que dans la miniature, portraits qu'ils commencent donc à produire à partir du début du XVe siècle. Il est notable d'abord que les sujets qu'ils dépeignent ne soient pas des princes et des rois, ou en tout cas plus exclusivement des princes et des rois, mais des bourgeois et des hobereaux qui sont représentés finalement en témoignage de la position qu'ils ont acquise par leur mérite et en reconnaissance de leur dignité, et non comme des symboles d'un ordre transcendant dont ils célébreraient la gloire par leur dévotion. Le réalisme des portraits est en outre frappant. Chaque personnage est saisi au plus près de son identité, sans que ses imperfections physiques, c'est très net dans les portraits de Campin en particulier, et sans que d'éventuels traits de caractère déplaisants ne soient dissimulés, et surtout sans intention d'en faire en aucune façon le reflet d'un modèle préétabli. Par ailleurs, ce mouvement d'individuation, il touche aussi les peintres eux-mêmes. Leurs œuvres commencent à être signées de façon assez systématique et les autoportraits rappellent la présence agissante du peintre. Par là est affirmé que l'image que le peintre produit est l'expression mimétique de sa personnalité s'exprimant sur une surface. le produit d'une individuation de l'activité créatrice. Alors évidemment, les autoportraits ne sont pas complètement inconnus chez les miniaturistes médiévaux, mais ils sont rares et très discrets. Tandis que celui, par exemple, que Jean Fouquet insère en 1450 dans le cadre du diptyque qu'il peint pour Notre-Dame de Melun, affirme véritablement la présence d'une individualité hors du commun, même s'il s'agit d'un tout petit autoportrait. Il est représenté sur une surface qui est guère plus grande qu'une médaille, mais la vigueur des traits, la profondeur du regard, le caractère volontaire de la contenance témoignent d'une personnalité tout à fait hors du commun, en même temps que d'une virtuosité tout à fait exceptionnelle. Suivent au fil des ans une série d'autoportraits dans lesquels, principalement italiens d'ailleurs, dans lesquels les artistes se dépeignent comme des personnages au milieu des scènes qu'ils figurent, souvent en se désignant sans équivoque. Ainsi en va-t-il par exemple de l'autoportrait de Benozzo Gozzoli qui se représente en 1459 dans sa fresque de l'Adoration des Mages de la chapelle du palais Medici Riccardi à Florence, comme un personnage dans la foule, mais coiffé d'un bonnet sur lequel est inscrit Opus Benotti, œuvre de Benoît, façon donc de signer la fresque. Un peu plus tard, en 1465, Piero della Francesca se dépeint de façon moins ostensible dans la Résurrection, une fresque réalisée sur les murs de la salle du conseil de Borgo San Sepolcro en Toscane. La référence est d'ailleurs d'autant plus discrète que le personnage est endormi. Discrétion également pour l'autoportrait de Fra Filippo Lippi, qui se peint comme l'un des personnages dans le cycle des fresques de la vie de la Vierge, qu'il réalise dans la cathédrale de Spolète entre 1467 et 1469. Là aussi, le regard est en biais, le visage n'attire pas l'attention. Ce n'est pas du tout le cas, en revanche, des autoportraits de Botticelli et de Filippino Lippi qui plongent leur regard sans hésitation dans celui du spectateur, façon donc d'attirer l'attention. C'est le seul personnage de ces fresques qui est dans ce cas. Le premier, c'est une toile en effet, le premier dans l'Adoration des Mages, une toile qui est de 1475 qui est actuellement aux Offices à Florence, et le second dans le Crucifixion de Saint-Pierre, une fresque exécutée pour la chapelle Brancacci de l'église Santa Maria del Carmine de Florence. Enfin, peint exactement 50 ans après celui de Fouquet, le célébrissime autoportrait de Albrecht Dürer n'est plus la célèbre l'authentification, en quelque sorte, d'une œuvre, comme c'était le cas par Fouquet, par celui qui l'a réalisé, mais c'est l'auto-célébration, sans vergogne, pourrait-on dire, d'un artiste qui se juge digne de se prendre lui-même comme modèle. Et au fond, en fait, ce que ce portrait signale, c'est une tendance générale. Dans la nouvelle peinture, tout devient individualisé. L'individu qui commande au peintre une fresque ou un tableau et qui aime être figuré en donateur pour que sa générosité soit admirée, l'image de ce même individu représentée dans la peinture de telle façon qu'elle peut être identifiée par ceux qui le connaissent, et le peintre enfin qui laisse une trace de sa personne, non seulement dans une manière de faire reconnaissable, mais aussi de plus en plus dans une signature ou dans un autoportrait. Des individus figurent des individus pour des individus. Imitation de la nature, deuxième caractéristique donc, de cette nouvelle façon de peindre. En effet, les premières manifestations de l'ontologie naturaliste au XVe siècle ne se donnent pas seulement à voir dans la manière inédite dont la singularité humaine est figurée, mais aussi dans une façon tout à fait nouvelle de représenter des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui gagne son indépendance. De même que le portrait s'affirme comme un genre original, rompant avec les conventions du portrait prototypique hérité de l'Antiquité, de même, l'autonomisation et la sécularisation de l'espace conduisent-elles à la naissance d'un autre genre, le paysage, qui va s'affirmer comme l'autre dimension essentielle de la figuration naturaliste. Là encore, c'est une invention de l'Europe du Nord. À tout le moins, c'est là que le genre s'est systématisé, en dépit des prouesses dans la peinture réaliste des plantes et des animaux, pour lesquels les ateliers lombards d'enluminure étaient célèbres déjà au Trecento. Mais les peintres italiens n'ont pas su tirer parti de ces acquis. Dans le Nord, en revanche, et pour citer Otto Pecht, je le cite, « la découverte de la nature ne pouvait qu'aboutir à la découverte de la peinture de paysage. » En effet, l'invention du paysage occidental supposait que les éléments naturels soient soustraits aux fins d'édification de la scène religieuse, qu'ils s'éloignent de l'espace sacré afin de mener une existence à part. Et c'est la fonction décisive que la perspective a rendue possible. Divorcer des icônes du premier plan, les arbres, les plantes, les animaux, les édifices, se constituent alors en une totalité homogène, parfois au détriment d'une liaison vraisemblable avec la scène sacrée. Et on en a vu quelques exemples l'année dernière, notamment dans des peintures de Campin. Et cette autonomisation de l'arrière-plan s'amorce en fait assez tôt, notamment chez les miniaturistes français du dernier tiers du XIVe siècle, notamment dans l'atelier de Jacquemart de Hesdin. L'espace commence à s'approfondir, les plans se multiplient, les éléments les plus éloignés perdent la netteté de leurs détails. Bref, la figuration du monde phénoménal commence à s'organiser autour de la manière selon laquelle il est perçu par un sujet extérieur à l'image, un sujet dont la position souveraine est parfois soulignée par l'élimination d'ailleurs de tout humain du paysage. Et ce mouvement se poursuit, les frères de l'Inde, je fais une très rapide synthèse de ce que j'avais avancé l'année dernière, le mouvement s'amplifie, les frères Limbourg, le maître de Boussicault, achèvent cette laïcisation, et le dernier stade sans doute de l'autonomisation est atteint avec ce qu'on a appelé le dispositif de la fenêtre flamande, c'est-à-dire c'est cette échappée vers l'arrière-pays qui isole le paysage à l'intérieur d'un cadre bien délimité et qui le convertit en un tableau dans un tableau, pour finir, sous la forme d'une galerie ouverte, par occuper presque tout l'arrière-plan et s'intégrer sans solution de continuité à la scène de l'Histoire sainte, tout en conservant son indépendance thématique. Il ne reste plus dès lors qu'à dilater la fenêtre à la dimension du tableau afin d'obtenir le paysage moderne, ainsi que le feront des peintres comme Gertgen, Todd St. John's et Patinir à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. C'est donc un paradoxe qu'un genre mineur, comme le paysage, qui relevait dans l'Antiquité romaine de l'ornementation et de la décoration d'intérieur, on a le sentiment, à lire les textes, qu'il s'agit quasiment de ces fresques qu'on trouve dans les pizzerias à l'heure actuelle. Peu considéré à ses débuts par les peintres de la Renaissance italienne, et connu en Europe du Nord, une mutation telle que ce genre puisse être à bon droit vu comme le symptôme d'une nouvelle façon d'appréhender les qualités du monde. Outre la perspective, ou la maîtrise en tout cas de la perspective linéaire, l'invention de la vision panoramique, qui est sans doute aussi pour beaucoup, par contraste avec le cube bien délimité et bien construit à la manière d'une scène de théâtre dont les peintres italiens trouve l'inspiration chez Vitruve, le paysage panoramique, c'est une spécialité du Nord. J'y reviendrai un peu longuement dans la prochaine leçon. Par exemple, cet extraordinaire tableau que j'avais présenté lors de l'année dernière, qui est la pêche miraculeuse de 1444, dans lequel Conrad Witz dépeint une vue du lac Léman et des sommets qui l'entourent. C'est le premier paysage réel associé à un sujet religieux dans la peinture occidentale. La figuration d'un morceau de pays, saisie depuis un point de vue particulier, tend alors vers une sorte de description exhaustive du monde, une description qui, comme le dit très bien Alain Méraud dans son livre sur le paysage en peinture, je le cite, « pourrait être infiniment continuée, les côtés du tableau n'ayant pas ici de rôle constructif, mais matérialisant seulement le découpage arbitraire que le peintre effectue dans la profusion du visible. » Et ça, c'est une tradition qui va se poursuivre dans la peinture du Nord, toujours au XVIe et au XVIIe siècle. Donc on est bien entré finalement dans le monde naturaliste, celui où règne à la fois un espace homogène, et cet espace infini de la res extensa, mais l'évolution de l'ontologie naturaliste ne s'arrête pas là. Si les droits de l'intériorité s'affirment au début sans conteste, les humains sont définis par leur intériorité distinctive, ils finissent peu à peu, au cours des siècles qui suivent, ces droits de l'intériorité, par entrer en contradiction avec l'universalité des principes de la physicalité. Et d'une certaine façon, les lois de la nature ne pouvaient indéfiniment laisser hors de leur juridiction ce résidu immatériel qu'on appelle l'esprit, qu'il soit individuel ou collectif. Sans doute, ce mouvement de naturalisation s'est-il accéléré au cours des dernières décennies, ce qu'il rend à présent plus manifeste. La conscience, la subjectivité, les dilemmes moraux, les particularismes culturels, la création artistique même, tendent de plus en plus à être expliqués comme des propriétés émergentes ou des conséquences adaptatives de fonctions biologiques et de mécanismes neuraux développés au cours de la phylogénèse humaine. Mais là encore, les images ont anticipé de beaucoup l'expression discursive de cette réduction du moral au physique. Elles l'ont fait à travers un processus que l'on pourrait qualifier d'une immanentisation progressive au cours de laquelle les humains ou les occupants du monde sont peu à peu devenus ce qu'ils sont en référence exclusive à eux-mêmes et non plus comme des signes d'autre chose. Et c'est cette mutation progressive de la figuration naturaliste qui fera l'objet de la première partie du cours cette année, la seconde partie étant consacrée aux modalités de la figuration dans ce que j'ai appelé l'ontologie analogiste. Mais je voudrais terminer la leçon d'aujourd'hui en explicitant le parti que j'ai adopté d'envisager le naturalisme sous l'angle un peu singulier par lequel je l'aborde. Il convient d'abord de rappeler, s'il en était besoin, que ma démarche est anthropologique et non historique. Autrement dit, je me situe du point de vue d'une théorie généralisée des conditions de production et d'usage des images, non du point de vue d'une histoire interne de l'art occidental, avec ses périodisations, avec ses écoles nationales, avec ses mouvements artistiques, toutes choses que les historiens de l'art étudient avec une précision et une érudition que je ne pourrai jamais égaler puisque je ne suis qu'un anthropologue. Si j'ai choisi de définir le naturalisme en le singularisant par deux caractéristiques, l'intériorité distinctive des humains d'une part et l'universalité des principes qui régissent leur dimension physique d'autre part, c'est parce que ce sont ces deux traits contrastifs qui m'ont paru les plus pertinents pour comprendre la spécificité de cette ontologie au regard des autres. Ce faisant, je suis évidemment conduit à réduire à des paramètres d'une relative simplicité la très riche tradition de l'art occidental, la foisonnante diversité dont il a témoigné pendant 5 siècles, les emprunts, les échos, les citations entre artistes qui font toute sa saveur et toute sa complexité, et enfin, je passe aussi sous silence, toute la symbolique qui permet de déchiffrer le sens des œuvres et dont les racines puisent d'ailleurs dans un terreau constituer bien avant la naissance du naturalisme. C'est pourquoi, du reste, l'on continue à trouver des motifs qui relèvent de l'analogisme le plus typique dans des œuvres pourtant composées, alors que le naturalisme a déjà imposé ses conventions. Je pense par exemple à Archimboldo et aux peintres maniéristes, ou plus généralement aux peintures d'allégorie. Donc la simplification à laquelle je me livre est un risque assumé, car c'est elle qui me donne les outils pour comprendre la ou les spécificités du naturalisme, non pas en tant que tel, mais au regard d'autres modes de figuration. Une approche purement internaliste de l'art occidental ne me permettrait pas d'accomplir cela. Par exemple, devant une nature morte du XVIIe siècle, on en verra quelques exemples dans les leçons qui viennent, je peux tenter de dégager la signification symbolique des objets qui la composent et qui renvoient à des codes partagés par le peintre et par ses contemporains. Et dans ce cadre d'analyse, je sais que chacun des éléments dépeints avec une minutie maniaque, chacun des animaux disposés sur la toile fait référence à l'histoire sacrée, à une qualité, à un défaut, à un précepte moral. La pomme fait référence au péché originel, le pain et le raisin à l'Eucharistie, la noix à Jésus, la pêche au mariage et à la fertilité, la fraise au paradis, la cerise à la passion du Christ, la libellule au diable, le papillon à la résurrection, le perroquet à l'éloquence, etc. etc., etc. C'est des tableaux d'emblèmes que l'on connaît bien. Selon la conjonction des éléments, je peux déchiffrer le sens moral que l'artiste a voulu donner à son œuvre, voir l'ironie qu'il met en conjoignant des symboles opposés. Mais cette interprétation, tout entière appuyée sur un savoir local hautement spécialisé, ne me sera pas d'un grand secours si je tente de comprendre en quoi ce genre d'image est tout à fait singulier. Pourquoi l'on ne trouve pas des natures mortes au Mexique, en Mélanésie ou dans d'autres régions du monde, mais seulement en Europe à une certaine époque? Pourquoi les peintres y ont investi une telle obsession de la véracité mimétique? Pourquoi y figure-t-on un perroquet tout entier, admirablement dépeint et de façon tout à fait réaliste, au lieu de se contenter de l'évoquer par quelques plumes dans un diadème, comme on le fait par exemple en Amazonie? Tout cela, la connaissance de la symbolique attachée à ces œuvres, ne me permettra pas de répondre à la question. Bref, l'iconologie traditionnelle ne me permettra pas de mettre en évidence en quoi cette nature morte, dans toute la richesse de son symbolisme historiquement contingent, peut présenter un contraste pertinent avec, par exemple, un masque animal yupik ou avec l'image très stylisée d'un cerf qu'un indien Huichol aura figuré dans une calebasse au moyen de perles de verre. Oh, c'est là la question qui m'intéresse. Au premier chef, Et c'est précisément la question à laquelle une histoire interne de l'art occidental est incapable de répondre, de même d'ailleurs qu'une ethnologie de l'art Witschel, uniquement centrée sur les significations rituelles et les significations symboliques ou mythiques des artefacts, serait incapable de dire en quoi telle image dépeinte dans une calebasse ou sur une rosace votive peut offrir un contraste pertinent avec un mât héraldique de la côte nord-ouest ou avec une statue de divinité polynésienne. Il est possible aussi que l'on considère comme simplificateur ce que j'ai retenu comme étant le fil conducteur du naturalisme, à savoir cette sorte de dynamique historique tout à fait sui generis qui voit l'effacement progressif au cours des siècles de l'intériorité distinctive des humains et la réduction de celle-ci à des paramètres purement physiques. Ce mouvement, je l'ai dit, il est repérable sans conteste en philosophie et dans les sciences de l'esprit, d'abord, il y a quelque temps déjà, dans les prémices qu'offrent des précurseurs matérialistes comme Lemaître ou Condillac, et puis, plus tardivement, plus récemment, pourrait-on dire, et de façon tout à fait nette, dans le dernier tiers du XXe siècle, avec le développement de la thèse, par exemple, dite physicaliste, par des philosophes comme Davidson ou comme Dennett, ou par des chercheurs en neurosciences cognitives comme Changeux, comme Damasio, etc. Pourtant, on verra que cette dynamique historique, elle est perceptible dans les images bien avant de recevoir une forme discursive et réflexive, puisqu'on en trouve des traces, au fond, dès le XVIIe siècle, dans la peinture hollandaise, un mouvement, au fond, d'anticipation, de même nature que celui qui a permis de rendre visible l'ontologie naturaliste dans les images, bien avant qu'elle n'émerge dans les textes. Or, traiter l'évolution de certaines images produites en Occident du XVe au XXe siècle sous l'angle d'une histoire de l'objectivation, ainsi que j'ai entrepris de le faire, et d'une histoire dans laquelle les images acquièrent une certaine autonomie par rapport au discours que l'on tient sur elles et par rapport aux significations qu'on leur prête, cela va évidemment à l'encontre des habitudes d'une histoire interne de l'art occidental, en général préoccupée par l'étude des continuités et des ruptures propres aux seules productions relevant des beaux-arts et pendant longtemps, en tout cas c'est un peu moins le cas maintenant, relativement indifférentes aux images non artistiques, qu'elles soient scientifiques, documentaires ou même promotionnelles, images qui m'intéressent moi au premier chef. Mais cette rupture avec une histoire interne, elle est nécessaire si l'on veut pouvoir aborder les images dans une perspective comparative la plus large possible, sans présumer que le discours savant tenu en Occident sur l'art soit le seul possible à leur propos, et sans non plus d'ailleurs s'interdire de recourir à ces historiens de l'art, je le fais abondamment, qui ont su approcher leur objet dans une perspective plus ample que celle d'une histoire interne des styles et des écoles, et en mettant l'accent plutôt sur la mise en évidence de la culture visuelle propre à une époque et propre à une civilisation. Et c'est ce que nous verrons dès la semaine prochaine avec la peinture hollandaise au XVIIe siècle.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.